Et enfin, des ventes de bêtes, de marchandises, de biens fonds parmi les plus riches. Et ce sont les seuls, là les délais de remboursement varient entre 1 et 10 ans, et ce sont les seules transactions où on enregistre des paiements comptants. Absolument nulle part ailleurs, j'avais enregistré des paiements comptants. Et donc, pour répondre à ces besoins, les individus se tournent successivement vers différents cercles de créanciers. La famille est le premier cercle auquel on s'adresse. Si elle est inexistante ou totalement incapable de répondre à la demande, les paysans font alors appel à leurs fournisseurs de travail. Et selon les régions, ce sera l'aristocratie, les institutions religieuses, les élites villageoises. Et dans les régions où l'industrie à domicile se développe, les marchands s'imposent vite comme créanciers privilégiés. Ensuite, on va demander crédit aux voisins, et en particulier aux femmes et aux veuves des villages, qui font ainsi fructifier leur patrimoine. Puis les élites régionales, et c'est là où on rencontre la ville, qui jouent souvent le rôle de marchands banquiers, seront sollicités. Et enfin, il sera fait appel aux étrangers, qui selon les pays sont des Juifs, des Italiens, des Savoyards, des Écossais, etc. Et les demandeurs de crédit s'adressent à ces cercles les uns après les autres. Familles et élites directes sont des créanciers obligés. Et c'est ça que j'avais vu dans ces inventaires après décès d'aristocrates. Dans une société fondée sur les liens interpersonnels, on ne refuse pas de l'argent à un membre de sa famille, même si l'on sait qu'il n'a pas la capacité de rembourser. Pas plus que les nobles, les institutions ecclésiastiques et les élites villageoises ne refusent un prêt à leurs clients au sens politique, car c'est une obligation de leur statut. Alors, c'est sûr que la famille est très difficile à saisir, parce que les liens familiaux ne sont pas forcément indiqués dans les actes. Mais elle reste donc on le voit très bien, il y a des tas de travaux sur l'Angleterre qui montrent, dans certaines régions anglaises, jusqu'à 40% des prêteurs sont issus de la parenté. Tout ça, c'est pour les paysans. Hein. Les associations de crédit entre villageois, elles ont existé, mais on n'arrive pas à les mettre en évidence. Je me disais, est-ce qu'il y a des tontines, est-ce qu'il y a des choses comme ça? Et en fait, c'est une Anglaise qui s'appelle Catherine Hutton, qui dans une lettre à son frère raconte ça pendant les mariages. Elle dit que les mariages coûtent très cher et que les gens ont une espèce de corbeille dans laquelle les gens mettent de l'argent, et c'est cette corbeille qui servira pour installer les jeunes mariés, et qui font ça à tour de rôle dans les villages. Mais ça, c'est la chose la plus difficile à mettre en évidence. Bon, le poids des communautés religieuses parmi les créanciers reste écrasant dans toute l'Europe pendant l'époque moderne, car il leur faut faire fructifier les revenus de leur domaine et les dots de leurs membres. Et en Espagne, couvents féminins font ainsi fructifier les dots des religieuses. Et on a ça pareil partout. Et les marchands, dans certaines régions, à présence nobiliaire faible, comme dans les montagnes ou bien proches des villes, les marchands sont les principaux créanciers des villageois. Dans les Alpes comme dans les Pyrénées, ils profitent grâce à la dette de la force de travail des villageois ou des pâturages. Dans les régions proches des villes, et on voit bien ça avec Naples par exemple, les marchands contrôlent la production céréalière à travers le crédit et à travers les contratos à la voce. Bon, les femmes mariées, comme les veuves, sont également de très grandes créancières, les premières parce que les maris gèrent leurs dots, et les secondes parce qu'elles font fructifier leur patrimoine. Et les veuves prêtent selon une double modalité, comme le montrent des exemples que j'ai trouvés dans la communauté d'Agen. Enfin, elles prêtent soit de petites sommes aux habitants dans le besoin, ou alors elles accumulent de plus fortes créances à travers le placement de leurs dots et des héritages. Et on retrouve la même structure en Espagne, dans un travail qu'avait fait Francis Dumont avec des inventaires après décès de veuves dans les Pyrénées. On trouve la même chose en Angleterre. Et en Angleterre, jusqu'aux dernières décennies du XVIIIe siècle, les veuves du Lancashire continuent à préférer investir leur argent, qu'elle soit ou non propriétaire, dans le prêt de proximité plus que dans le crédit d'État. Mais il ne faut pas oublier que ces quelques femmes dans le crédit ne doit pas masquer que le veuvage est, d'une manière générale, le prélude à un déclassement social. Et le dernier cercle auquel il est fait appel est celui des étrangers. Alors, on a durablement associé les Juifs à l'usure, mais ils n'étaient pas les seuls étrangers à vivre du prêt d'argent. Et les Italiens, les Savoyards, les Auvergnats, les Écossais ont rempli exactement les mêmes rôles. Et donc, comme j'ai dit, il y a, dans une société fondée sur les liens interpersonnels, on ne peut pas refuser... de prêter du crédit à ces gens qui sont dans cette relation. Et la grande importance du saint privé témoigne de la force des liens personnels dans les relations de crédit, d'ailleurs. Quand on arrive à avoir des sources qui échappent au notaire, là, on se rend compte que le notarial est minoritaire par rapport aux autres papiers. Et dès qu'on a des inventaires après décès, le saint privé l'emporte sans conteste. Alors même que le notariat, qui permet l'appel en justice, offre des garanties légales que nous ne donnons pas. Et alors ce que j'avais étudié, en voyant ça, j'avais étudié les durées des prêts, les garanties demandées, j'avais essayé de trouver qui était avec qui on prête, et là je m'étais rendu compte qu'entre les villageois et leurs élites naturelles, les terres sont gagées, n'étaient pas tellement gagées sur la terre, mais sur les récoltes, sur le travail de la famille, et ça c'était tacite. Et après je trouvais dans les papiers de famille, au dos du billet, que tel enfant avait fait le berger, et on voyait comment les compensations se faisaient à travers du travail. Alors là, c'est quelque chose, j'ai failli dire ça tout à l'heure dans ce que François avait mis. Il y a un moment, dans tu sais, toutes les choses que tu as trouvées, tu dis « Ah, c'est bizarre, il y a deux... tu vois, tu parles de la vente de terre avec possibilité de réachat et tu parles d'un prêt sur gage. Et là, tu fais une différence. » Et en fait, moi, je n'en ferai pas de différence, parce que dans les deux cas, c'est une vente. Si tu veux, dans un cas, dans un crédit normal, celui qui prend le risque, c'est le créancier. Et c'est pour ça qu'il veut de la formation. Mais dans ces cas-là, de vente, de prêt sur gage ou de vente avec réachat, celui qui prend le risque, c'est le débiteur. Et c'est la raison pour laquelle, dans toutes les économies pauvres et dans tous les pays pauvres, l'instrument de crédit numéro un, c'est le prêt sur gage. Parce que c'est dans des économies où il n'y a pas d'information, c'est la seule manière d'avoir du prêt en faisant porter le risque sur celui qui a besoin d'argent. Et là aussi, c'est un monde énorme que les historiens ont pour ainsi dire pas étudié, mais dont on voit dans l'Europe moderne à travers des tas d'indications. Une fois qu'on a dans le crâne qu'il y a du prêt sur gage en pagaille, là on le trouve. Mais tant qu'on ne l'a pas vu, alors on ne cherche pas et on ne le voit pas. Et donc tout ça m'amène à ce que je voulais surtout dire, que du coup, ce dont on se rend compte, c'est un surendettement et un temps long des créances qui se retrouvent partout. Il est manifeste dans les Alpes, où périodiquement, entre 15e et 19e siècle, l'ensemble des habitants est endetté bien au-dessus de la valeur de ses biens. Et il est également très présent au 17e dans le Beauvaisis de Pierre Goubert. Il donne des tas d'exemples de villages. Il est présent en Alsace, où entre 1670 et 1699, le solde dette active, dette passive, dans les inventaires après décès, selon les époques, positifs, dans des proportions variant entre 1 sur 3 et 1 sur 10, ce qui veut dire que 7 à 9 inventaires sur 10 présentent un bilan négatif. Donc, on a, où que ce soit qu'on regarde, en Espagne c'est la même chose, on voit ces phases où les villages sont tous surendettés. Et malgré tout, l'enrichissement ou l'appauvrissement des paysans peut se lire dans la prépondérance de tel ou tel cercle de créanciers. Par exemple, l'enrichissement global des paysans au XVIIIe siècle se voit en Alsace dans le fait qu'entre XVIIe et XVIIIe siècle, les paysans contractent de moins en moins de dettes extérieures, urbaines et intervillageoises, et trouvent de plus en plus leurs ressources au sein de leur propre famille, auprès des institutions ecclésiastiques et hospitalières. Et c'est là où j'ai vraiment compris ce système des cercles de créanciers qui joue selon les conjonctures. Et donc, je pourrais vous montrer la même chose pour l'Angleterre, pour la Catalogne, et pour le Wurtemberg, où a travaillé David Sabine. Pour l'Italie, mais ce que je voudrais dire pour terminer, c'est, après avoir raconté tout ça, se poser les questions des logiques de la dette. Et donc, si on regarde la dette du point de vue de ses effets, on voit que c'est un mécanisme à plusieurs détentes. Elle permet certes de capter des terres, mais aussi de contrôler d'autres marchés, comme celui du travail, comme celui des récoltes, et surtout de s'assurer du pouvoir sur les hommes. Alors, l'accès à d'autres marchés, finalement, c'est c'est bien connu, tout le monde l'a bien vu. Mais maintenant, je voudrais montrer quelque chose qui est moins connu et que j'avais mis dans ce texte. Mais la dette ne joue pas qu'au bénéfice des propriétaires. Et certains paysans ont su l'utiliser pour transmettre leur ferme à la personne de leur choix, comme on le voit dans la propriété des Fonarmines. Et cette propriété comporte 11 villages de paysans. Je ne vous donne pas leur nom parce que c'est de l'allemand, je ne sais pas prononcer, Bauer, Wilstatten, enfin. Et en gros, c'est des paysans qui sont plus ou moins dépendants et des paysans qui sont plus ou moins libres. Alors, les premiers sont des paysans libres qui prennent à bail pour 3 ans les fermes des Fonarmines. Et ils apportent dans la plupart des cas bétail et outils de travail. Et ces paysans doivent payer un bail qui est le prix de leur liberté. Et qui les différencie des paysans de la Gutswirtschaft, pardon, pour ceux qui parlent allemand, qui eux n'ont droit à aucune forme de propriété, ni terre, ni animaux, ni outils. Et les Fonarmines apportent leur crédit aux paysans libres quand ils en ont besoin pour s'établir dans les Bauernwirtschaften, pour traverser des épisodes douloureux comme la maladie, l'accident, ou pour payer les semences et acheter des bêtes. Et ces crédits restent généralement impayés pendant des dizaines d'années sans qu'il leur soit demandé d'intérêt. Et les paysans remboursent partie en travail, en cultivant une partie de la réserve seigneuriale, ou en transportant les produits au marché et partie en argent. Mais pour assurer leur vieux jour dans la ferme, les paysans cherchent à la transmettre à leur fils, à un parent proche, voire à leur valet de ferme. Et la dette est l'arme de cette stratégie. C'est elle qu'ils transmettent à la génération suivante, et c'est sur elle qu'ils comptent pour inciter le noble à garder sur sa terre les héritiers choisis par le paysan. Alors plusieurs cas montrent le succès de cette stratégie. Et je vais vous donner un cas, celui du vieux paysan Reinicke, qui passe devant la cour patrimoniale en 1769 et qui doit quitter la ferme à cause de son endettement et de son incapacité à payer le bail. Alors, Reinicke proteste, il dit qu'il est fermier depuis 36 ans, que c'est un accident immérité, qu'il l'a mis en difficulté et que c'est tout à fait injuste de le jeter. Alors, Von Arnim accepte de l'aider et il consent également à la transmission de la ferme. Il accepte de l'aider. Donc, grâce à la dette, il a réussi à rester. Et on a le cas d'un autre qui n'a pas d'enfant et qui fait exactement la même chose et qui arrive à faire mettre à sa place son valet qui travaillait pour lui et qu'il avait, entre parenthèses, pas payé depuis plusieurs années. Et donc, ces paysans ont utilisé la dette pour s'assurer une place pour leur vieux jour, tout en épargnant le salaire de leur valet, qui pouvait être leur fils. Et le valet achète son indépendance au prix des dettes du fermier. Et quant au noble, il est gagnant aussi parce qu'il conserve des paysans reconnaissants qui connaissent bien la ferme. Et ça a été aussi utilisé par des veuves. Enfin bon. Donc je trouvais que c'était intéressant de montrer aussi que la dette pouvait être quelque chose que les paysans savaient aussi manier. Et puis, les trois derniers titres, dans les villages, la dette fonde l'appartenance à la communauté. Finalement, les vrais pauvres, c'est ceux qui n'ont pas de crédit, parce que tout le monde s'en fiche. Et ça, je vous donne, je vous raconte le chapitre 2 du livre, là, que j'ai fini, pour ainsi dire. Et je cite en entrée, mais que j'ai mis peut-être dans le texte que vous avez, Rabelais.
En conclusion.
Ouais, voilà. Et